Vous écoutez France Culture.
Réplique, l'humanité démocratique avec Marcel Gauchet et Robert Legros. Avec rigueur, détermination et patience, Robert Legros poursuit depuis plusieurs décennies déjà une longue enquête philosophique sur la démocratie et sur l'idée d'humanité. Après l'idée d'humanité, justement, et l'avènement de la démocratie, il publie aujourd'hui « L'humanité éprouvée ». Dans ce livre, Robert Legros dialogue avec plusieurs auteurs importants, notamment avec Marcel Gauchet. Ce dialogue m'a semblé si riche que j'ai voulu qu'il ait lieu de vive voix. Je remercie Marcel Gauchet et Robert Legros d'avoir accepté mon invitation et je leur demanderai d'abord ce qu'il faut entendre dans le monde moderne, par démocratie. Robert Legros.
Eh bien, je commencerai par souligner le fait que je n'entends pas la démocratie simplement comme un régime au sens étroit du terme, mais précisément comme un régime au sens large du terme, c'est-à-dire au sens que Tocqueville a donné au mot de démocratie. Il ne s'agit pas simplement d'une organisation de la vie collective, mais il s'agit plus largement d'une nouvelle compréhension du monde et même d'une nouvelle expérience du monde. Alors, ce monde nouveau, le monde démocratique, a commencé peu à peu à émerger à la fin de la période médiévale, au début donc de l'époque moderne, et il a commencé à se manifester à travers une lente contestation des principes qui jusque-là avaient dominé l'organisation du vivre ensemble, c'est-à-dire les principes aristocratiques. Donc, une contestation du principe d'hétéronomie, qui est au fondement de l'organisation aristocratique, le principe d'hétéronomie, c'est-à-dire la loi vient de plus haut que nous, ce n'est pas nous qui sommes les auteurs de la loi que nous suivons, mais cela vient d'un monde de l'au-delà, au-delà des hommes. Principe donc d'hétéronomie qui a toujours été joint au principe hiérarchique, c'est-à-dire il y a entre les hommes une sorte de division considérée comme à la fois naturelle et surnaturelle entre des inférieurs et des supérieurs. Et enfin, un principe communautaire qui était à la base des sociétés aristocratiques, selon lequel chacun est défini par les communautés auxquelles il appartient. À ces trois principes, principe d'hétéronomie, principe hiérarchique et principe communautaire, commencent peu à peu à émerger trois nouveaux principes. Le principe d'autonomie, à savoir l'homme est à la source de la loi du vivre ensemble est une loi d'origine humaine, principe d'autonomie. Et puis, contestation du principe hiérarchique au nom d'un principe d'égalité, égalité des conditions, de naissance, il n'y a pas de différence naturelle ou surnaturelle entre les hommes. Et puis, enfin, opposé au principe communautaire, un principe d'indépendance individuelle, c'est-à-dire chacun en principe et en droit décide du sens de sa propre vie.
Oui, mais alors,
voilà les trois principes.
Il y a quand même un paradoxe qu'il faut expliciter. Ce que vous dites là, c'est que la démocratie est moderne, par définition. Or, le mot est ancien. Les modernes n'ont pas inventé la démocratie. Ce régime nous vient des Grecs. Alors, comment... Il y a là un paradoxe qu'il faut quand même expliciter.
Oui,
que devons-nous à l'héritage grec Et en quoi la démocratie moderne continue-t-elle la démocratie ancienne, ou en quoi s'en différencie-t-elle complètement? Est-ce qu'il s'agit là de deux mots qui ne devraient pas être considérés comme des synonymes, en quelque sorte?
Alors, il y a bien sûr quelque chose de commun. C'est en effet les Grecs qui ont inventé l'idée d'une égalité des citoyens, c'est-à-dire que la loi vient des citoyens et il y a égalité et, en principe, liberté des citoyens. Seulement, le régime démocratique grec peut malgré tout être présenté comme un régime aristocratique au sens large, en ce sens qu'il n'y a pas en Grèce, ni même dans les cités de l'époque à l'époque de Périclès, à l'époque de la cité démocratique, il n'y a pas d'expérience du semblable au sens de l'expérience moderne du semblable, puisque les citoyens se reconnaissent certes comme égaux, mais ils sont privilégiés en tant que citoyens. Oui, il y a une différence entre l'égalité des citoyens en tant que citoyens et l'égalité des citoyens. Mais il n'y a pas égalité des citoyens
C'est ça la grande différence.
Oui. Donc, se maintient un principe d'hétéronomie, c'est parce que la distinction entre celui qui est citoyen et non citoyen n'est pas une distinction établie par les citoyens. Oui. Elle est considérée comme surnaturelle, conforme à l'ordre naturel du monde.
Marcel Gauchet, votre définition.
Tout ce qu'a dit Robert Legros, je ne puis que l'appuyer. Je ne proposerai qu'une variation sur la thématique qu'il a esquissée. Je dirais, la démocratie moderne a pour particularité d'introduire une nouvelle manière d'être de l'humanité. Et une nouvelle manière d'être de l'humanité, où l'idée même d'humanité prend toute sa portée pratique, pas simplement spéculative. La démocratie des modernes, c'est aussi bien une nouvelle manière de penser la raison, qui trouve une signification différente de celle qu'elle avait chez les Grecs, où elle avait déjà un poids considérable en se projetant dans cette activité que nous appelons science. C'est une démocratie qui change l'expérience personnel des individus dans leur rapport à eux-mêmes et à leurs proches, le principe du semblable, dont il ne faut pas oublier qu'il se détache sur le fond d'un principe d'universalité des droits des individus. Ce sont ces droits universels, justement, que la démocratie grecque ignorait. Et puis, enfin, elle change la vie en commun, non seulement sous l'aspect de la vie politique, de la vie publique, mais aussi sous l'aspect de la vie pratique que nos sociétés mènent en s'engageant dans une histoire qu'elles essayent de façonner consciemment. Une autre dimension qui n'avait pas de sens dans le cadre de la cité athénienne.
Alors justement, Robert Legros, dans son livre, montre très bien ce que sont pour vous, Marcel Gauchet, les trois vagues ou les trois composantes de la démocratie moderne, la puissance pour les hommes de se gouverner, le droit moderne qui prend la forme d'un droit des individus. Il vous cite, les droits de l'homme ne désignent rien d'autre que le principe de légitimité qui se substitue irrésistiblement à la légitimité religieuse. Vous montrez comment la démocratie, finalement, c'est l'aboutissement de la sortie de la religion. Et puis, troisième élément, troisième composante, la concrétisation de l'autonomie dans la dimension de l'histoire. Et dans votre livre « La condition historique », vous dites précisément « L'histoire, c'est l'idée de l'autoconstitution de l'humanité dans le temps » qui s'accompagne de son auto-compréhension. Et là, je vois quand même une première difficulté de la démocratie moderne, tiraillée qu'elle est entre la condition politique et la condition historique. Parce que la démocratie, c'est évidemment l'idée que la décision résulte de la discussion entre contemporains. Les gens se parlent et ils façonnent ensemble le sens. Et Stuart Mill dit la liberté d'opinion, c'est pas simplement la liberté pour chacun de dire ce qu'il a sur le cœur, mais c'est la possibilité pour chacun d'être réfuté par les autres, d'être contredit, et ainsi peut-être d'approcher la vérité. Camus, le démocrate est modeste, il a besoin des autres, pour précisément parce qu'il ne sait pas tout. Et donc il doit pouvoir compléter ce qu'il sait par ce qu'il sait. Mais si vous dites aussi que l'humanité, la démocratie, c'est l'histoire, alors il y a d'un côté ceux qui représentent l'histoire en marche, puis de l'autre côté, ceux qui sont en retard, ceux qui veulent revenir en arrière, ceux qui bloquent en quelque sorte le processus. Bon, et on le voit aujourd'hui, si vous voulez, cette division obsessionnelle entre progressistes et réactionnaires. Mais dès lors que les individus ne sont pas contemporains, on ne voit pas comment même ils pourraient se parler. Bon, donc, je veux dire, soit comment faire pour concilier, si vous voulez, ce pluralisme politique et cette idée que l'homme démocratique vit dans l'élément de l'histoire. Il me semble qu'il y a là une tension et une contradiction parfois extraordinairement difficile à vivre, Marcel Gauchet.
Mais certainement, l'expérience historique, c'est l'expérience en même temps d'une difficulté à comprendre l'histoire en train de se faire. Et donc, l'expérience historique, c'est d'abord une discussion sur le devenir en train de se produire, qui met aux prises des options fondamentalement différentes sur l'appréciation de ce processus, d'un simple point de vue formel, indépendamment de tout contenu. Quand il y a expérience historique, il y a l'expérience du poids du passé. C'est dans la société historique que le sens du passé, de ce qui s'est déjà sédimenté comme expérience de l'humanité antérieure, prend tout son poids. Et il y aura de nécessité des esprits pour lesquels ce lien vivant à maintenir avec ce que fut l'humanité antérieure et ce qu'elle a déjà produit, qui peut éventuellement nous paraître très supérieur à ce que nous sommes capables de produire au présent, prend tout son sens. À beaucoup d'égards, nos sociétés contemporaines sont dominées par un surmoi dans l'ordre, par exemple, artistique, qui les paralyse sur le plan de la création, parce qu'elles ont le sentiment commun, très répandu, que les créations du passé sont très supérieures à ce que nous sommes capables de nous-mêmes produire aujourd'hui. Et puis, il va y avoir le camp des ultra-progressistes qui disent « Mais qu'est-ce que ce passé nous, en quoi peut-il encore nous concerner? Tout ça est fossile, c'est patrimonial au mieux, et ça ne nous intéresse pas. » Et puis, il y a les, si je puis dire, les prudents qui s'accommodent du mouvement tel qu'il se fait. Donc, l'expérience historique, et c'est son privilège à de certains égards, c'est le lieu d'une tension, d'une contradiction, d'un affrontement, d'une discussion permanente sur la manière dont nous allons assumer cette historicité. Ça n'est pas une donnée naturelle qui... Et nous sommes sortis à cet égard. Nous avons fait un grand pas en avant. C'est qu'il n'y a plus de propriétaire du sens de l'histoire.
Ah.
Là, de ce point de vue-là, les décennies précédentes ont marqué un progrès collectif. Parce qu'il y avait, au fond, depuis que cette expérience est inaugurée, une sorte de tentation de chercher une science de l'histoire qui allait nous donner le sens de ce mouvement et dont, évidemment, les adeptes se pensaient comme une avant-garde infiniment supérieure au peloton des suiveurs. Eh bien, c'est fini.
Vous dites que c'est fini. Robert Le Gros, je discuterai cette conclusion un peu optimiste.
Oui.
Robert
Le
Gros.
Je voudrais ajouter peut-être une dimension complémentaire. Marcel Gauchet dit très justement que la démocratie est une manière d'être, introduit une nouvelle manière de comprendre le monde, et cette manière de comprendre le monde, du reste, repose sur une expérience du monde. Je crois qu'il faut bien souligner cela, que lorsque un Grec, par exemple, de l'époque de Périclès, estimait, selon une formule de Ricoeur, que l'idée d'humanité vient à l'homme par le corps politique, c'est parce qu'il avait une expérience de sa participation à la vie de la cité, en tant que citoyen. Quand le judaïsme est à la source d'une nouvelle expérience de notre humanité, à savoir qu'il y a une sorte, comme le disait Lévinas, de présence de Dieu à travers la relation à autrui, c'est aussi une expérience. Il y a donc chaque fois hein, dans la démocratie moderne, l'expérience du semblable, c'est l'expérience de l'autre en tant qu'il est autonome. Il y a donc chaque fois une expérience sur la base de laquelle s'édifie une compréhension du monde. Et ce que nous enseigne, je pense, la phénoménologie, c'est que dans le monde quotidien, nous pouvons être prisonniers d'une sorte de circularité entre l'expérience et la compréhension. Ce qui fait que dans le monde quotidien, comme le dit la phénoménologie, nous sommes en quelque sorte dans un monde naturel. Le monde nous semble naturel parce que notre compréhension s'appuie sur une expérience et que notre expérience est immédiatement compréhensible par notre compréhension. Il y a donc une sorte de sentiment d'évidence, aussi bien pour l'homme aristocratique que pour l'homme démocratique. Or, nous enseigne la phénoménologie, s'il y a bien un proprement humain, quelque chose qui est à la fois universel et qui révèle un proprement humain, c'est précisément la rupture de cette circularité entre la compréhension et l'expérience. Ce que d'ailleurs Castoriadis appelait la brisure de la clôture.
Oui.
De la clôture moyennant laquelle, en règle générale, une société existe, il y a cette brisure de la clôture, il y a donc une sorte de suspension de notre propre attitude. Au fond, ce qui caractérise l'homme, c'est que nous n'adhérons pas complètement à notre expérience. Nous pouvons prendre une distance. Mais, et ça, aussi bien l'homme aristocratique que l'homme démocratique.
Alors, oui, mais ce qui nous aide, alors je ne sais pas si je vous ai tout à fait bien compris, ce qui peut nous aider à prendre une distance, c'est précisément le choc d'autres pensées,
voilà,
d'autres discours qui nous dépaysent, qui nous déconcertent. Mais j'en reviens tout de même à cette question de l'histoire. Dans le livre de très beau livre de Jean Starobinski, Action-réaction, il y a cette citation de Victor Hugo, admirable. L'agonie a ses ruades. En langue politique, cela s'appelle la réaction. Une réaction, barque qui remonte le courant, mais qui n'empêche pas le fleuve de descendre. Bien, à partir du moment où le monde se partage entre vivants et agonisants, entre ceux qui vont quand même vers là où l'histoire conduit les hommes, vers plus de liberté, plus de droits, dirait-on aujourd'hui, et ceux qui veulent bloquer le mouvement, aucun dialogue n'est possible. Alors vous disiez, Marcel Gauchet, que nous sommes revenus de l'idée des propriétaires du sens de l'histoire. Évidemment, là, on peut se dire que le totalitarisme, c'est une sorte de progressisme apocalyptique, puisqu'on on fait mourir les classes agonisantes. Donc on confirme le verdict de l'histoire. Plus personne ne fait ça aujourd'hui, mais il y aurait quand même comme une espèce de petite terreur à feu doux quand précisément, à peine vous n'allez pas dans le sens de ce que serait le mouvement démocratique, eh bien, vous êtes réactionnaire. Parce que si vous êtes réactionnaire, eh bien, bah, vous ne faites pas vraiment partie des vivants. Vous êtes un survivant, vous êtes un anachronisme, vous êtes quelque chose, voilà, avec qui il faut bien vivre. Parce qu'on ne peut pas complètement s'en débarrasser, mais pas certainement un interlocuteur à qui parler. Donc, il me semble que cette difficulté-là est très réelle encore dans nos démocraties. Et peut-être vient-elle, encore une fois, du fait que nous vivons dans l'élément de l'histoire, et que, alors que la démocratie devrait être une scène où tout le monde est contemporain. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Si on est sur un axe temporel, les hommes ne sont plus contemporains. Donc le dialogue tourne court.
Oui,
Marcel Gauchet.
Bien sûr, mais à la condition qu'il y ait des propriétaires du sens du mouvement démocratique. Y en a-t-il davantage que du sens de l'histoire? Je ne le crois pas. Et
eux le croient.
Ah, mais bien sûr. Mais le grand problème de la démocratie, depuis que nous sommes engagés dans ce processus de construction maintenant séculaire, nous le voyons bien. Le grand problème de la démocratie, ce sont les illusions de la démocratie sur elle-même, qui en permanence produit des fantasmes sur les possibilités qui lui sont offertes. Et sa seule supériorité, c'est la capacité de les corriger. C'est la capacité de les discuter. C'est là où, précisément, par rapport à ce que disait Robert Legros, c'est un régime qui, non pas par une vertu qui lui serait intrinsèque, mais par sa disposition même, est obligé d'affronter la rupture de la clôture. Il ne peut pas faire autrement. Et dans ces illusions d'aujourd'hui sur le mouvement démocratique, nous sommes en effet dans un moment d'ultra-démocratisme à de certains égards, très intéressant à considérer historiquement, nous avons vu se recréer une manière de propriétaire du sens de ce que serait la démocratie, qui ne me paraît pas plus assurée de ses bases que le parti des propriétaires du sens de l'histoire du passé. C'est donc aussi bien dans la démocratie qu'on peut discuter de ce qui, en tout état de cause, quelle que soit la nouveauté de l'expérience que nous vivons, il y a un lien vivant à garder avec le passé et avec un acquis du passé qui mérite non seulement la considération, mais qu'on se batte pour lui, car il est indispensable. Et c'est tout aussi bien dans la démocratie que l'on peut interroger les limites de la traduction des principes démocratiques dans la vie de la société. Ce qui fait que les dévoiements dont vous parlez sont manifestes, qui pourraient discuter de leur existence, mais ne me paraissent pas des objections fatales, en quelque sorte, qui menaceraient du dehors la démocratie dans son principe même.
Oui, Robert, oui, vous avez
quelque chose ? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marcel Gauchet. Peut-être, on pourrait le dire en ces termes, que la démocratie offre une certaine supériorité par rapport à l'aristocratie, en ceci, non pas que ces principes soient plus vrais dans l'absolu, mais en ceci qu'elle peut forcer à s'ouvrir à l'énigme. Parce que, en définitive, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut très bien voir qu'il y a des mauvaises compréhensions de l'autonomie. On pense que si on est autonome, c'est parce qu'on serait maître du sens. On pourrait décider souverainement, et chaque individu pourrait décider souverainement du sens de sa vie. Ou bien on pense que l'autonomie signifierait que tous les êtres humains sont semblables, donc se définissent par leur similitude spécifique, leur appartenance à une même humanité, animalité. Il peut y avoir des fausses compréhensions de l'autonomie, mais l'autonomie nous force tout de même à nous poser la question, en définitive, qu'est-ce que cela signifie ? Donc, grande question chez Kant, parce que Kant a bien montré que, d'une certaine manière, l'autonomie n'a aucun fondement empirique. On ne peut jamais se baser sur l'expérience empirique pour dire cet être-là est autonome ou n'est pas autonome. C'est une grande question. Alors que, en ce qui concerne le principe hiérarchique, là, le principe hiérarchique, il oblige les êtres à se différencier les uns des autres et à considérer qu'ils sont empiriquement différents. Moi, supérieur, je suis différent par certaines manifestations empiriques. L'inférieur est inférieur. Là, le principe hiérarchique, en quelque sorte, enferme l'humanité dans sa propre compréhension. Alors que le principe d'égalité des conditions peut nous ouvrir à une sorte d'énigme. Qu'est-ce que c'est que notre humanité ?
Il peut nous ouvrir à une sorte d'énigme, dites-vous, et en même temps, je vois le progressisme fleurir à nouveau au moment même où il apparaît très difficile de penser l'histoire en termes de progrès, précisément parce que nous sommes pris dans des processus. Je crois qu'il y a un processus démocratique à l'œuvre aujourd'hui. Donc, Hugo dit la barque qui remonte le courant n'empêche pas le fleuve de descendre. La métaphore aquatique est employée par Tocqueville, mais dans un sens tout à fait différent. Je lis ici un des brouillons de la démocratie en Amérique, livre qui vous réunit tous les deux. L'un et l'autre, vous avez contribué, une fois que Marx a cessé d'être l'horizon indépassable de notre temps, à lui rendre toute sa dignité philosophique. Et voici ce qu'écrit Tocqueville. « La démocratie, n'apercevez-vous pas que ce sont les eaux du déluge ? Ne les voyez-vous pas s'avancer sans cesse par un lent et irrésistible effort ? Déjà, elles couvrent les campagnes et les villes. Elles roulent sur les créneaux de tous les châteaux forts. » Et viennent baigner jusqu'aux marches des trônes. Vous reculez, le flot poursuit sa marche. Vous fuyez, il court derrière vous. Vous voici enfin dans votre dernier asile, et à peine vous êtes-vous assis pour reprendre haleine, qu'il a déjà couvert l'espace qui vous séparait encore de lui. Sachons donc envisager l'avenir d'un œil ferme et ouvert. Au lieu de vouloir élever d'impuissantes digues, cherchons plutôt à bâtir l'arche tutélaire qui doit porter le genre humain sur cet océan sans rivage. C'est très beau, mais on peut dire aussi, que, dernière métaphore fluviale, que l'égalité sortant de son lit juridique et politique, se répand partout, dans l'école, dans la famille, et détruit ainsi tous les espaces qui l'accueillent. Donc, que peut faire la démocratie, autrement dit, face au processus démocratique? Il y a les progressistes qui disent ce processus, c'est le sens de l'histoire, c'est très bien, mais on voit que même Tocqueville nous avertit que les choses sont plus compliquées que ça. Marcel Gauchet.
C'est précisément là qu'il est important de réfléchir à ce double dimension du processus démocratique. Il y a ce qui nous est perceptible en conscience et qui se manifeste en effet dans le sentiment du semblable, dans cette égalité qui est une requête qui nous pousse toujours plus avant dans la redéfinition des rapports entre les personnes et aussi entre l'humanité et l'animalité, par exemple. Et puis, il y a autre chose, et c'est ce que j'ai essayé d'introduire, c'est-à-dire l'organisation du monde humain que suppose ce déferlement du processus de l'égalité. Il y a autre chose à l'œuvre dans le monde démocratique que ces sentiments et ces représentations qui sont accessibles à la conscience des acteurs. Et que la conscience des acteurs peut ignorer, qu'elle peut refouler, qu'elle peut ne pas vouloir connaître. Je dirais, le mouvement de la démocratie, c'est la dialectique entre ses propres conditions infrastructurelles, en quelque sorte, et l'idée que s'en font ces acteurs, qui est très souvent trompeuse, illusoire, abusive, excessive. La sagesse démocratique, que nous avons réussi, tant bien que mal, à conserver jusqu'à présent, c'est de réussir à combiner ces deux dimensions avec des flottements qui peuvent être importants. Nous en avons connu par le passé. Nous sommes probablement en train d'en connaître un. D'où l'importance de caractériser très précisément à chaque époque historique le principe de dérèglement possible. Et aujourd'hui, il a un nom. Ce nom, c'est le droit. C'est une espèce d'hyperbole d'un principe au demeurant constitutif sur lequel il ne s'agit pas de revenir, qui est les droits des individus à leur égale liberté. Principe fondamental, mais dont on voit que quand on le pousse à l'extrémité, il est la source, en effet, de débordement et de la fabrication d'un monde qui peut, à la limite, devenir inhumain. Au nom des droits de l'homme, on peut fabriquer de l'inhumanité, qui n'est pas une inhumanité violente, torturante, massacreuse, comme celle que nous avons pu connaître, mais qui n'en est pas moins une vraie destruction du principe humain. Eh bien, l'expérience démocratique, ce n'est pas un long fleuve tranquille dont il suffirait de s'abandonner au cours, c'est un travail permanent pour réfléchir ce processus et le canaliser en tenant en compte toutes ces dimensions nécessaires.
Et pourquoi dites-vous que les droits de l'homme, l'idée que la démocratie renvoie simplement à la sauvegarde des libertés individuelles, en oubliant la puissance de s'autogouverner, pourquoi cela produit-il de l'inhumain ? Je vous ai compris, mais j'aimerais que vous explicitiez ce paradoxe.
Et ça le produit sur différents plans, dont peut-être le plus simple, et pour finir, le renoncement à se comprendre. L'humanité a un devoir envers elle-même, qui est de se réfléchir, de se demander ce qu'elle fait. Être humain, c'est se mettre soi-même dans l'obligation de se rendre compte des motifs de son action. Eh bien, dans un univers où il n'y a plus que la composition des libertés individuelles, ou un marché des indépendances personnelles, personne ne sait plus ce qui résulte de ce processus.
Nous le voyons bien, c'est au fond la grande incertitude qui pèse sur la politique contemporaine. C'est où allons-nous ? Pourquoi ? Personne ne peut répondre à cette question, ni n'essaye plus, à la limite, d'y répondre. Ben, on verra. Eh bien, là, on est dans l'inhumain, non pas au sens où nous avons l'habitude de le loger, c'est-à-dire le viol de la dignité des personnes, mais dans l'inhumain au sens du renoncement de l'humanité à ce qu'elle a de plus propre.
Voilà, donc je préciserai que lorsqu'on s'inquiète du processus démocratique, autrement dit, lorsqu'on critique la démocratie comme processus qui nous entraîne à établir une sorte d'égalitarisme dans tous les domaines, même là où l'égalité devrait rester étrangère. Mais lorsqu'on a une telle inquiétude, c'est au nom de principes démocratiques.
Bien sûr.
C'est au nom de principes démocratiques. Donc, il faut bien opposer la démocratie comme processus à la démocratie comme idéal.
Oui.
Et alors, là, effectivement, la démocratie peut engendrer, comme tout régime, une sorte de processus où les individus vont jusqu'à renier leur propre compréhension de ce qu'ils sont. Hein? Par exemple, en démocratie, lorsque l'on est riche, la loi de la majorité en loi suprême. On peut être conduit à des illusions, parce que la majorité peut aller à l'encontre des idéaux démocratiques. Et par conséquent, il faut bien mettre une limite à la loi de la majorité. Quelle limite ? C'est une question. C'est toujours une grande question. Mais donc, la démocratie peut ouvrir à des principes qui permettent de mettre en question la manière dont la démocratie peut se renier.
Oui, bien sûr, ouais. Robert Le Gros. Mais précisément, on voit l'égalité sortir de son champ propre, investir un certain nombre de domaines. Prenons l'école, puisque Marcel Gauchet, vous avez consacré votre dernier livre, celui que vous avez écrit avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi, à l'école. Son titre, c'est « Transmettre, apprendre ». Bien, quand l'égalité s'introduit entre les maîtres et les élèves, puis entre les bons élèves et les mauvais, quelque chose se produit, un retournement, pour parler comme Jean-Marc Ovas, le biographe de Victor Hugo. Hugo a plaidé pour l'école obligatoire, elle existe et elle produit des gens qui ne peuvent plus le lire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais la question que je voudrais poser, tout d'un coup, cette situation n'est-elle pas destinale ? Après tout, on a pensé la technique en termes prométhéens. Puis Heidegger a dit non, la technique est destinale, c'est quelque chose qui nous emporte. L'image de Prométhée est fausse, est mensongère. Eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire, au fond, qu'une démocratie destinale ? Parce que ce mouvement-là, je ne vois rien qui l'arrête. Je ne vois rien qui l'arrête. On a beau protester, on a beau s'inquiéter, on a beau faire toutes sortes de bilans, PISA, machin, des choses, ça continue, ça suit son cours. Alors quand la démocratie, ça suit son cours, quand la démocratie devient destinale, que faut-il penser, Marcel Gauchet ?
Je ne crois pas que la démocratie devienne destinale, bien que toute la description que vous ayez donnée, qui est juste, me puisse donner cette impression. Mais le grand problème ultime de la démocratie, c'est le pouvoir de la démocratie sur la démocratie, sur ses pentes voilà. naturelles. Et cela est le nouveau problème devant lequel nous sommes. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, la démocratie était en conquête. Quand le Tocqueville parle, comme vous le citiez tout à l'heure, il est confronté à des esprits qui n'en comprennent pas la nécessité, la force, et qui peuvent encore penser qu'un retour au monde aristocratique est imaginable. Nous sommes dégagés de la possibilité de penser de la sorte. Mais nous sommes devant une autre dimension, c'est que la démocratie ne peut s'abandonner à elle-même sans se renier dans son principe même, puisqu'elle, ce qu'elle revendique, c'est un pouvoir de façonnement du monde humain, maîtrisé, réfléchi, consensuellement déterminé. Et là, nous nous abandonnons en effet à quelque chose qui est plus fort que nous. Mais nous oublions ce qu'est la démocratie. Et je crois qu'elle a en elle, de par son principe, des forces de rappel qui font que elle ne sera pas destinale au sens où vous l'indiquiez. Même si le processus est très difficile, très laborieux, très, très lent.
En effet, la démocratie a en elle des pouvoirs de contester ses propres débordements. Elle a cela en elle. Elle a le pouvoir de surmonter sa pente naturelle. Mais on peut se poser la question, peut-on envisager qu'un jour nous soyons pleinement en démocratie? Là, je pense que l'illusion est insurmontable. Et c'est peut-être là, peut-être qu'il y avait peut-être quand je dis qu'il y avait un désaccord entre vous, Marcel Gauchet, et Heidegger, c'est peut-être sur ce point-là. Alors, parce que Heidegger, lui, penserait assurément que l'homme est pris et est jeté dans un monde et il n'est pas possible de surmonter tout ce qui peut entraîner une déchéance dans ce monde. Or, je lis quelques propos de Marcel Gauchet dans lesquels il est, je dirais pour le dire très, très simplement et peut-être un peu grossièrement, assez optimiste. Hein, il dit par exemple une authentique possession de soi suppose la maîtrise simultanée de ces trois dimensions, de la norme que l'on se donne certes, mais aussi du cadre où l'on s'inscrit et du devenir où l'on se crée, et elles jouent ici les unes indépendamment des autres, si ce n'est les unes contre les autres. L'articulation synthétique entre le politique, le juridique et l'historique est à refaire. Alors on se pose la question, est à refaire, est-ce qu'on pourrait refaire?
Voilà, je le crois.
Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est ce qui vous opposerait certainement à Heidegger. C'était cette conception de l'histoire dans laquelle on pourrait surmonter les illusions qu'engendre le régime dans lequel on est.
Alors, mais Heidegger ne dit pas simplement cela, parce qu'il y a aussi chez Heidegger l'idée d'un rappel de la finitude. Pas, mais ce n'est pas simplement les illusions dans lesquelles nous sommes jetés. C'est, me semble-t-il... même si on peut inaugurer un autre commencement, c'est en se mettant à l'écoute, donc c'est par une sorte d'attitude modeste, mais qui peut permettre aux hommes, justement, de se soustraire à l'ensorcellement où ils sont, où les met la technique, par exemple. Parce que la grande thèse de Heidegger, nous ne vivons pas dans un monde désenchanté, nous vivons envoûtés par la technique, c'est très bien dans les... Enfin, très bien, oui, enfin, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il répète dans les Beiträge que François Fédier vient de traduire de manière un peu déconcertante chez Gallimard. L'envoûtement que répand la technique, ses progrès exponentiels, ne sont que le signe de cet ensorcellement qui pousse tout en direction de la computation, de l'utilité, du dressage, de la maniabilité et de la régulation. Il y a donc pour Heidegger une manière, malgré tout, de sortir de cet envoûtement par le processus destinal dans lequel nous sommes pris. Il ne s'agit pas simplement de consentir aux illusions.
Oui, non, pas de consentir, mais je pense que Heidegger ne dirait jamais « Voilà comment nous devrions faire pour sortir des illusions de la technique ». Il n'y a pas de plan, il n'y a pas la prévision d'une sorte de méthode qui pourrait faire en sorte que l'humanité sorte de la technique. Individuellement, il peut y avoir des poètes, il peut y avoir des penseurs qui ne sont pas prisonniers de la technique. Mais en ce qui concerne l'humanité, où va-t-elle? On est débordé par cette question, nous sommes jetés dans un monde, il n'y a pas de plan à proposer pour savoir où nous pourrions aller.
Non, mais en même temps, je me tourne vers vous, Marcel Gauchet. Pour lui, nous sommes déjà dans le monde de la technique à travers l'idée d'histoire telle que vous développez, d'une autoconstitution de l'humanité par elle-même. Il y a là un vice, selon Heidegger, parce que l'autoconstitution, la production de l'humanité par elle-même, mène à la destruction de l'humain. Il s'agit quand même de réhabiliter une certaine passivité par rapport à une ambition comme celle-là qui se retourne, selon Heidegger, contre l'humanité elle-même.
Mais certainement, il y a des éléments de pertinence indiscutables dans cette analyse qu'il faut justement que la sagesse démocratique se doit d'intégrer. Je crois que la démocratie a affaire à une tentation de la démesure en permanence, dont il est heureux qu'il y ait eu des esprits lucides pour l'avertir. Et il y a un bon usage à faire de ces avertissements.
Comme pour Nietzsche, pour
la
d'ailleurs.
Mais bien sûr. Mais je ne... Voilà, au fond, la question, c'est de savoir si la démocratie est sourde et aveugle, enfermée qu'elle est dans ses présupposés, dont l'univers technique porte la dynamique de façon quasiment irrésistible, ou de savoir si elle est en mesure d'incorporer ces avertissements et cette conscience de sa propre démesure qui la menace. Ce dont je suis convaincu. Mais c'est le pari auquel nous sommes condamnés. Personne ne peut dire qui a raison de ceux qui pensent qu'il y a une sorte de fatalité de l'illusion qui emmène le processus démocratique à sa ruine, ou de savoir s'il est capable de se rectifier dans sa trajectoire. Je pense que si l'on descend par rapport à ce qu'il y a de très fort dans le diagnostic heideggerien, à un niveau plus descriptif de ce qui se passe pour de bon, en quittant l'altitude philosophique pour l'analyse sociale historique. Je crois qu'on voit mieux à la fois où sont les périls et quels sont les remèdes pour les corriger. Nous sommes d'ores et déjà devant la question de la technique dans son effectivité sociale avec le problème écologique. Quelle est la pente actuelle de l'univers technique? C'est de fabriquer une sphère humaine autosuffisante qui, à la limite, s'autonomiserait, perversion de l'autonomie, par rapport au monde naturel. C'est évidemment un intenable. Mais nous voyons aussi que la conscience de cet intenable pénètre malgré tout. Le programme de rectification de la trajectoire n'est pas très engagé, mais la conscience du problème est là. Et je serais tenté de penser que la démocratie, et ce sera un élément de réflexion supplémentaire sur ses propres bases, est en mesure d'affronter cette question.
Robert Legros.
Oui, mais comme le disait Marcel Gauchet, on ne pourra jamais trancher cette question-là. On peut penser que si la démocratie, à chaque moment où elle sort de certaines illusions, fait renaître certaines illusions, il en est ainsi jusqu'à présent.
Oui.
Alors, est-ce que ça continuera, ou bien est-ce qu'à un moment donné, les hommes seront sortis de l'illusion? Ça, personne ne peut trancher.
Mais j'en reviens à cette question de la condition historique, pour poursuivre peut-être le parallèle avec Heidegger. Parce que, Marcel Gauchet, vous dites... L'histoire, c'est l'idée de l'autoconstitution de l'humanité. Mais peut-être peut-il y avoir un autre moyen d'envisager notre condition historique. Vous dites, Robert Legros, que Heidegger s'inscrit malgré tout dans la tradition romantique. Et être historique, ça veut dire précisément ne pas s'autofonder. Après tout, l'historicité a été découverte par les romantiques en réaction à la Révolution française et à sa volonté de faire table rase. Non. Et Régis Debray, romantique en ce sens, dit « La particularité nationale fait partie de ces infortunes providentielles qui empêchent les hommes de se prendre pour des dieux. L'humanité, les hommes ne peuvent pas s'autofonder, s'autoconstituer. Ils sont endettés, ils sont des héritiers. C'est ça la condition historique. C'est un rappel de la finitude. Nous parlons une langue, nous sommes nés quelque part, nous sommes imprégnés par un monde qui n'est pas seulement démocratique d'ailleurs, qui est un monde, voilà. Et est-ce que l'idée d'une autoconstitution de l'humanité par elle-même n'induit pas une représentation de l'histoire qui fait bon marché de cette forme-là d'historicité,
Marcel Gauchet? Elle tend à faire bon marché de cette forme d'historicité, mais elle peut dépasser cette naïveté consistant à croire que l'autoconstitution, c'est une autofondation et une autofabrication, ce que cela ne saurait être. Autoconstitution, cela veut dire, pour commencer, réflexion sur ce qui nous permet d'être, sur ce qui nous est donné dans tous les ordres de notre expérience, et la langue, évidemment, mais aussi bien le cadre politique dans lequel nous vivons, aussi bien l'histoire qui s'est déroulée avant nous. Si nous oublions purement et simplement ce qu'a été l'expérience de l'humanité depuis des millénaires, essentiellement différente de la nôtre, nous sortons de la condition humaine qui est d'assumer le passé. L'expérience historique, c'est assumer le passé et se mettre en devoir de le comprendre, quand bien même il est aux antipodes de ce que sont nos convictions. Donc quand je parle, pour mon compte, d'autoconstitution de l'humanité, il ne s'agit pas d'un artificialisme intégral, qui est un non-sens. Il s'agit de la maîtrise réfléchie des conditions qui nous permettent d'être ce que nous sommes. C'est cela à quoi nous devons tendre et qui implique de se plier aux conditions qui nous ont fabriquées, y compris le passé dont nous sortons, sans lequel nous ne serions pas là où nous sommes. C'est donc un sens aigu des limites de notre condition qui habite le projet d'autoconstitution, s'il est bien compris, à mon sens.
Robert Le Gros.
Oui, alors, la question est de savoir si on peut être à la hauteur de la transcendance du monde, hein, comme on le dit en phénoménologie, ou selon l'expression de Heidegger, nous sommes jetés dans un monde. Nous sommes toujours dans un monde qui est déjà là. Alors, un grec a une compréhension grecque, un homme du Moyen-Âge a une compréhension médiévale, l'homme moderne a une compréhension moderne, parce qu'il est dans son monde. Alors, cela, on peut en tirer comme enseignement, effectivement, une leçon de finitude. Je suis dans le monde que j'habite, et dans un déjà-là. Je ne peux pas décider souverainement que le monde sera autrement qu'il n'est. Mais donc, moi, je place un peu comme Marcel Gauchet, mais je m'exprime, je crois que je dis la même chose en d'autres termes, lorsque je dis qu'il y a l'expérience universelle de la suspension de l'attitude naturelle ou du recul suspensif. C'est-à-dire, en toute société, les êtres humains peuvent prendre un recul par rapport à l'expérience qu'ils ont de leur monde. Mais aussi bien dans le monde aristocratique, du reste, dans la mesure où il est justement fondé sur un principe d'hétéronomie qui nous renvoie aussi à une énigme. Car le principe d'hétéronomie nous ouvre aussi à l'énigme de notre humanité. Qui sommes-nous si la loi vient de plus haut que nous ? De la même manière que le principe d'égalité peut aussi nous ouvrir à l'énigme de notre humanité. Mais c'est cette ouverture qui caractérise l'être humain, et je dirais qu'il le caractérise dans chaque monde, mais en même temps, l'être humain peut avoir tendance à se donner des confirmations empiriques du monde dans lequel il est. Donc non seulement ce monde dans lequel il est, il y est jeté, il est pris par l'ensemble des principes qui constituent ce monde, mais il en rajoute, si on peut dire, en cherchant des confirmations empiriques. C'est ce que montre Tocqueville lorsqu'il montre qu'en démocratie, les hommes se copient les uns les autres, s'imitent, cherchent à se ressembler. Ils sont tellement pris par l'idée d'égalité qu'ils cherchent à la confirmer par des manifestations empiriques. Donc là, il y a de l'illusion qui est secrétée, mais en chaque monde, il y a aussi la possibilité d'une prise de distance.
Oui, mais alors, justement, nous naissons dans un monde, il y a du déjà-là. Or, on a le sentiment avec la démocratie actuelle que le seul déjà-là qui soit acceptable, c'est la démocratie elle-même. Toute autre forme du déjà-là est perçue comme une survivance absurde. Enfin, c'est ce que dit Nietzsche avec le dernier homme. Autrefois, tous les hommes étaient fous. Donc on regarde le passé, sa noirceur, du haut des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ne cessant de s'empiler les uns sur les autres, ne cessent de confirmer aussi notre supériorité sur les mondes anciens. Donc, que faire face à cette réduction du déjà-là à l'actualité démocratique elle-même ? On sent que c'est aussi une dépente de notre... Donc voilà, nous serions jetés dans un monde, mais dans un monde qui serait un pur présent, ou l'illusion que ce présent a sur lui-même.
Oui, ça, c'est le danger. Oui. Mais il peut y avoir aussi un déjà-là qui nous apparaît dans son énigme. Quand on nous dit que nous sommes autonomes, comme le dit Kant, c'est une question. C'est une question à laquelle nous devons chercher à être à la hauteur de cette question et à la hauteur de notre autonomie. Mais nous ne pouvons pas décider souverainement que non, les hommes sont divisés par une hiérarchie qui est naturelle ou surnaturelle. Ça nous est devenu étranger. Oui. Ça nous est devenu complètement étranger. Il suffit encore de lire certains textes, par exemple, de Bossuet du XVIIe siècle, pour nous dire, mais comment a-t-on pu penser dans ce terme-là ? Ça nous est devenu complètement étranger. Lorsque Bossuet dit, le roi est sur son trône comme Dieu sur le trône de l'univers, on dit, mon Dieu, nous n'avons plus du tout cette compréhension du monde. Ça nous est devenu complètement étranger. Nous ne pouvons pas faire en sorte que autrui nous apparaît comme un semblable. Mais nous pouvons aussi nous ouvrir à la question, qu'est-ce que ça signifie cette similitude ? Ou bien nous pouvons nous fermer à la question et considérer que nous sommes semblables puisque nous appartenons à la même espèce animale, et puis point, et s'enfermer dans des évidences.
Notez bien que la démocratie d'aujourd'hui est en effet travaillée par la tentation de l'amnésie et du rejet de l'ensemble du passé humain dans une espèce de barbarie obscurantiste insupportable. Mais c'est aussi le monde où la connaissance du passé humain dans l'ensemble de ses ramifications connaît un développement qu'ignoraient les sociétés antérieures. Nous sommes la société qui sait, la société démocratique sait son passé pré-démocratique. Elle a tendance spontanément à le rejeter dans les ténèbres extérieures, mais il est clair qu'une démocratie mûre, plus éduquée, plus auto-transformée que la nôtre, contre cette tentation, sera une démocratie qui est capable d'affronter la question « Pourquoi l'humanité a commencé par ne pas être démocratique ?» Alors, est-ce que c'était parce que nos ancêtres étaient des imbéciles qui n'avaient pas compris le sens des vraies valeurs ? Ça paraît douteux. Et précisément, le sens de l'égalité démocratique nous interdit de les traiter comme des barbares. Il faut donc assumer cela. Pourquoi n'avons-nous pas été spontanément démocrates et pourquoi n'avons-nous pas spontanément vécu selon les droits de l'homme qui apparaissent clairement comme le fruit d'un très long parcours ? Eh bien voilà ce qu'une démocratie pleinement au fait d'elle-même est capable d'assumer comme question.
Oui, espérons qu'elle en soit capable parce que moi je vois toutes sortes de mises en scène où le passé est convoqué, mais on projette sur lui... disons, l'égalité, la similitude du présent. J'ai vu, par exemple, les fausses confidences de Marivaux dans une mise en scène de Luc Bondy. Il y a quand même des hiérarchies chez Marivaux, même si toutes ces hiérarchies sont mises en cause. Et on n'y comprend plus rien, parce que c'est en costume moderne, on ne sait plus qui est qui, etc. Donc, quand le metteur en scène présent se saisit du passé, c'est pour projeter sur lui ses évidences et donc son incompréhension. Et là, on se dit quand même, le monde de Marivaux était peut-être plus subtil que... Le nom.
Mais ne faisons pas du moment présent, qui est un moment de profonde crise de l'univers démocratique dans son épanouissement, la vérité finale de l'histoire.
Merci Marcel Gauchet. Ça, c'est une conclusion. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Robert Le Gros, L'humanité éprouvée, et il est publié aux éditions Garnier. Marcel Gauchet, vous avez fait paraître, avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi, Transmettre, apprendre. Chez Stock, vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Quel est le goût de la vie à deux ?» Mes invités seront Claude Habib et Pascal Bruckner. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Célia Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.